L'aspect théologique de l'origine de l'humanité, pour nous rappeler que cette alliance, effectivement, Dieu l'avait faite avec l'homme créé en son image dans le jardin. Cette alliance a été rompue par le péché et la chute, mais Dieu, dans sa grâce, a continué de nous annoncer cette alliance. Il nous a appelé l'homme pécheur au salut, et ça va être le thème que va aborder maintenant Monsieur Henri Blocher, que j'ai invité à venir ici sur la table. Monsieur Henri Blocher est professeur émérite de théologie à Wheaton College. Il a été longtemps professeur à la faculté de Vaux-sur-Seine. Il est l'auteur de l'ouvrage que vous avez au fond de Révélation des origines, et je lui laisse maintenant la parole.
Je ne me servirai pas non plus de PowerPoint. Je n'ai pas atteint ce stade d'évolution. Je m'autorise souvent, d'ailleurs, je m'excuse, de cette façon par un dit fameux de M. Buchold. PowerPoint, pauvre point. Je préfacerai l'exposé que je dois faire par la lecture de deux versets du chapitre 8 de l'Épître aux Romains, donc que je traduis, les versets 20 et 21, dont vous verrez le rapport avec notre sujet, donc l'homme pécheur est appelé au salut. La création, écrit l'apôtre, en effet, a été soumise à la frustration, la futilité, la vacuité quant au sens, on peut traduire de ces diverses manières, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance que la création elle-même sera libérée de la servitude de la corruption pour jouir de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Le sujet qui m'est choix se loge au cœur de la foi évangélique, et c'est le sujet par excellence du théologien systématique. Malgré le sous-titre que le programme emploie pour cet après-midi, les enjeux théologiques, je ne pense cependant pas adéquat de me contenter de parler en théologien du sujet de l'homme pécheur et appelé au salut, ce que j'ai eu l'occasion de faire bien souvent et qui se trouve aussi sous forme publiée. Notre journée tout entière se préoccupe de la confrontation du discours théologique et du discours des scientifiques aujourd'hui. Il me faut bien jeter un coup d'œil sur les données bibliques et sur leur interprétation, faire quelques commentaires théologiques, mais je voudrais concentrer ma contribution à la présentation, sur la présentation de quelques problèmes délicats à la jointure des deux grands discours, théologique et scientifique. Quelques problèmes controversés, dont il a d'ailleurs déjà été question au cours de notre journée, mais j'espère pouvoir apporter quelques éclairages supplémentaires. Les données bibliques d'abord, sont celles que nous trouvons au début de la Genèse, qui a été remarquablement étudiée. Rappelons qu'il y en a aussi quelques-unes qui sont significatives de ces données ailleurs dans l'Écriture, qui souvent font écho au texte fondateur de la Genèse. Il s'agit pour nous, avec le sujet que j'ai, donc plus spécialement de Genèse 3, après l'exposé qui a concerné Genèse 1 et Genèse 2. Genèse 3, le récit qu'on intitule très souvent, classiquement dans la tradition chrétienne, le récit de la chute. Nous pouvons reconnaître, me semble-t-il sans peine, que l'intention du texte est étiologique, c'est-à-dire que le texte veut évoquer les causes d'une situation que connaissent bien les êtres humains. Il s'agit de rendre compte de la présence du mal dans le monde, en particulier du mal de la mort. Pourquoi les humains sont-ils, au bout du compte, tous condamnés à retourner à la poussière? Pourquoi cette fin inéluctable du long combat pénible que l'homme va devoir livrer au sol duquel il a été tiré? Voilà ce que raconte le chapitre 3 de la Genèse, et il ajoute divers éléments qui appartiennent comme au cortège de cette nécessité de mourir et qui constituent l'ensemble du phénomène du mal. Il y a, dès la mendication du fruit, la honte qui oblige à se couvrir. Il y a la peur de Dieu qui se cache devant la face du Seigneur Dieu. Il y a l'effort pour s'excuser en accusant l'autre. Il y a la tyrannie du mal dans le couple et toutes les souffrances de la maternité, tous ces aspects du mal que connaissent les humains. C'est ce qu'ont fait l'homme et la femme, d'après le récit qui nous est présenté comme la cause de ce que connaissent, par expérience douloureuse, les êtres humains tout au long de l'histoire. L'apôtre Paul, en particulier, ratifie cette lecture que certains exégètes d'aujourd'hui essaient de contourner, à laquelle ils essaient d'échapper. L'apôtre souligne ce rôle, c'est par un homme que la mort est entrée dans le monde, que le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Vous connaissez le texte de l'Épître aux Romains, chapitre 5. Il dit aussi plus brièvement, en parlant de la mort, « Tous meurent en Adam », au chapitre 15 de la première Épître aux Corinthiens. Cette lecture était assez commune dans le judaïsme de l'époque entre les Testaments, de l'époque dite du Second Temple, et le Nouveau Testament, donc, construit sur une compréhension qui avait été reçue, bien qu'il y ait eu une aile du judaïsme qui se soit intéressée davantage encore à Genèse 6 et à l'obscure histoire des fils de Dieu s'unissant aux filles des hommes. La portée de Genèse 3 avait été cependant bien remarquée. Et je vous cite deux passages qui me semblent significatifs dans l'Apocalypse syriaque de Baruch, appelé encore de Baruch. « Oh, qu'as-tu fait, Adam, à tous ceux qui sont nés de toi? Et que dira-t-on à la première Ève qui a obéi au serpent? Car toute grande multitude s'en va à la corruption, et ils sont sans nombre ceux que le feu dévore. » Et dans le quatrième Esdras, « Oh toi, Adam, qu'as-tu fait? Car si tu as péché, ta chute n'a pas été la tienne seulement, mais aussi la nôtre, à nous, tes descendants. À quoi nous sert la promesse d'un temps éternel si nous avons fait des œuvres qui apportent la mort ?» Vous voyez à quel point le judaïsme avait reconnu le rôle décisif, déterminant, de ce qui nous est rapporté au chapitre 3 de la Genèse. Très éloigné de la lecture que font certains aujourd'hui, et entre autres des lectures qui renversent en positif le geste, je l'ai entendu, le geste de la femme. La transgression est élevée au rang de valeur libératrice. Vous le savez, ce n'est pas la perspective que nous trouvons dans le texte même. L'originalité radicale du récit biblique, comparée avec les mythes des nations alentours, pratiquement tous les mythes et des philosophies qui en sont souvent procédés, consiste à disjoindre l'origine de l'être et l'origine du mal. L'origine de l'être, tout procède de Dieu et Dieu vit que bon, Dieu vit que très bon, et l'origine du mal qui survient comme un intrus. Cela a été, et je lui en suis énormément reconnaissant, très bien discerné par le philosophe Paul Ricoeur, qui dit très bien que cette disjonction, il a comparé les mythes entre eux et souligne que c'est là le propre de ce qu'il appelle le mythe adamique, que cette disjonction est strictement solidaire de ce qu'on trouve ailleurs dans l'Ancien Testament, du monothéisme moral, comme il l'appelle. S'il y a un seul Dieu et un seul Dieu bon, moralement, il faut disjoindre l'origine de l'être qui vient de ce premier principe et la présence du mal, là, solidaire du monothéisme moral, nécessaire au sentiment de scandale, d'indignation à l'égard du mal. Il écrit « Le mal devient scandaleux en même temps qu'historique » et encore solidaire de l'appel à la conversion des prophètes. Malheureusement, Paul Ricoeur n'est pas resté fidèle à cette si belle intuition, à ce discernement remarquable, parce qu'il estimait en homme moderne impossible d'accepter ce qu'il lisait très, très justement dans le texte. Il a essayé de frayer une autre voie qui, je pense, lui a fait perdre le bénéfice de ce qu'il avait discerné. La succession dans le temps est essentielle. Peu importe la durée de l'innocence, cette heure ou sept siècles dans le jardin d'Éden, je pense quand même que ce n'était ni si court ni si long, sept heures ou sept siècles, il est vital de préserver cette différence d'origine entre l'être, entre l'humanité comme telle et le mal qui est fait d'expérience. L'alliance conclue et vécue un moment a été violée avec des conséquences pour tous les fils d'Adam, les descendants d'Adam. Vous savez que les humains sont appelés très très souvent les Bnei Adam, sans article pour Adam. C'est la façon très très courante dans tout l'Ancien Testament de se référer à l'humanité. Il y a l'usage du mot Adam collectif pour l'humanité tout entière, mais aussi cette expression assez typique des enfants ou fils, les bnei Adam. Le même texte de Genèse 3 atteste cependant que Dieu n'a pas abandonné sa créature d'élection qu'il a faite en son image. Et il y a peut-être en partie parce que les humains sont en même temps victimes, ils sont coupables, mais aussi victimes, abusés par l'habile serpent, il y a une espérance qui déjà perce, comme un rayon perce le nuage, dès le chapitre 3 de la Genèse, l'homme appelé au salut, le verset 15, qui est le verdict prononcé par le Seigneur sur le serpent, est appelé classiquement le protévangile, le premier évangile, l'évangile avant l'évangile. Il annonce en effet que le serpent sera écrasé à la tête, c'est radical, par le lignage de la femme. Dieu va instituer une inimitié radicale entre le serpent et la femme, entre son lignage et le lignage de la femme, mais le lignage de la femme écrasera la tête du serpent. Bien que le prix semble en être que le serpent meurtrira, écrasera, c'est le même verbe, au talon ce descendant. Avec l'interprétation classique de ce verset, je crois qu'il y a là déjà l'annonce de la victoire sur le serpent ancien, le diable, comme ce matin on nous l'a bien expliqué, par le descendant de la femme, son lignage, en la personne du nouvel Adam, notre Seigneur Jésus, qui, par le moyen même de la blessure que lui a infligée le serpent, par la mort, a vaincu le serpent de manière radicale, a remporté la victoire sur le serpent, écrasant la tête. Alors cette interprétation a été contestée dans les temps modernes. Et même un auteur évangélique qui a été nommé rapidement ce matin, John Walton, que j'ai eu pour collègue à Wheaton d'ailleurs, essaie d'effacer cette signification si nette et en un sens c'est vrai incroyable, vraiment la prophétie déjà de la victoire de Jésus-Christ dans ce verset de Genèse 3. Et l'argument employé, c'est que le lignage du serpent, c'est au fond le serpent, et que quand il est dit que le lignage de la femme écrase la tête du serpent, cela se réfère seulement à toutes les expériences morales de l'humanité qui résistent au serpent, le serpent représenté par son lignage. Il me semble que le raisonnement n'est pas solide, et du coup que l'interprétation traditionnelle demeure de ce verset. Cette interprétation n'est pas très solide parce que quand le pronom personnel « toi » est employé, dans les passages où il est question de lignage, ce n'est pratiquement jamais dans le lignage qui le représente, mais vraiment la personne elle-même qui est en cause, le père, si vous voulez, l'ancêtre, par rapport à son lignage qui est en cause. Ici, vous le remarquez, il est question du serpent et de la femme et de leur lignage respectif. Mais s'il y a inimitié entre le serpent et la femme, c'est le lignage du serpent qui va s'opposer au lignage de la femme, mais c'est le serpent lui-même qui sera écrasé par le lignage de la femme. Ce n'est pas la femme qui écrase le serpent, c'est son lignage. Ce n'est pas le lignage du serpent qui mord le talon du vainqueur, mais c'est le serpent lui-même. Donc, il est, me semble-t-il, tout à fait justifié par les données précises de cette symétrie dans le verset. Et j'ai étudié, je ne l'ai pas fait juste pour cette rencontre, mais précédemment, une centaine de passages où il est question de lignage. Il n'y a qu'un seul de ces 100 passages où on pourrait comprendre que le pronom personnel singulier « tu » n'est pas directement engagé, mais simplement en la représentation que son lignage assure de lui. Un passage dans Genèse 28 où il est dit de Jacob qu'il possédera le pays, ça pourrait se comprendre de son lignage seulement. Mais ce n'est pas une interprétation absolument nécessaire dans ce seul verset sur 100. Donc je crois que je peux maintenir très fermement, parmi les données bibliques, qu'il y a déjà une aurore d'espérance qui se lève dans le chapitre 3 de la Genèse, qui annonce l'ultime défaite du serpent, l'adversaire de Dieu. Ce sont là, me semble-t-il, les données principales. J'ajoute quelques observations théologiques avant de passer aux problèmes les plus délicats et controversés. Quelques observations qui prolongent ce que je viens déjà de dire. Tout d'abord, ce que j'ai essayé aussi d'expliquer ailleurs, il y a une doctrine du mal qui procède de cette disjonction entre l'origine de l'être et l'origine du mal. Toute une doctrine du mal qui fait du péché le mal capital, c'est-à-dire le mal de tête, celui à partir duquel procèdent tous les autres maux. Ce n'est pas de cette façon courante, de cette façon que couramment on pense. La souffrance et la mort pour l'humanité procède de cette désobéissance radicale. Le mal n'est pas une dimension métaphysique de l'humanité, un ingrédient de la condition humaine comme telle. Le mal est un intrus, le mal est donc moral et relationnel, intervenant dans l'histoire, la racine de tout ce qui ne va pas est religieuse. Il s'agit de la relation à Dieu. Voilà les grandes lignes de la doctrine du mal que je crois toute la Bible atteste et qui procède de ce que le début de la Genèse nous propose. En second lieu, l'historicité du mal est non seulement solidaire du monothéisme moral, mais du message du salut. Le salut même est possible parce que le mal n'est pas un ingrédient qui appartient à l'humanité comme tel. Si c'était le cas, il n'y aurait plus qu'une seule solution, détruire l'humanité pour détruire le mal. Il peut y avoir salut historique, parce qu'il y a eu mal historique. Parce que le mal est un intrus qui peut être chassé. Voilà ce que le protévangile annonce. Voilà ce qui permet qu'il y ait un nouvel Adam qui défasse ce qu'a fait le premier Adam, ou plutôt qui refasse ce qu'a défait le premier Adam. Troisièmement, un avertissement me paraît nécessaire. À cet endroit, la théologie que je résume, que je crois biblique, est la cible d'une hostilité croissante dans les cercles théologiques d'aujourd'hui. C'est la perspective augustinienne. Le salut est une riposte à l'intrusion du mal. Et saint Augustin a écrit, si l'homme n'avait pas péché, le Fils de l'homme ne serait pas venu pour le salut. Cette perspective que je crois biblique, je viens de le dire, elle est rejetée par un nombre croissant de théologiens aujourd'hui, dans le catholicisme, dans le protestantisme. J'ai entendu il y a juste quelques semaines, dans un colloque, un théologien catholique user d'une véhémence, voire d'une brutalité qui m'ont vraiment étonné à l'égard de Bossuet, parce que Bossuet maintenait ce point de vue augustinien. Il a été maintenu pendant la plus grande partie de l'histoire de toutes les églises, mais aujourd'hui, il est minoritaire dans le monde académique, je le signale au passage. Je pense que nous avons à le maintenir sans faiblir. Voilà quelques lignes théologiques pour réflexion supplémentaire, mais maintenant je me place à la jointure de ce discours que je viens de tenir brièvement, et du discours dominant dans les cercles scientifiques quant aux origines humaines et quant aux origines du mal, et peut-être aussi quant à la possibilité d'un salut, puisque c'est là mon sujet. Je relève quatre problèmes délicats. Je regarde ma montre. J'espère que j'aurai le temps de dire un mot de chacun des quatre. Traces de la chute. Qu'en est-il des traces de cette chute dont Genèse 3 nous parle? Deuxième problème, la mort est-elle naturelle ou ne l'est-elle pas? Troisième problème, celui du mal moral comme un intrus, ce thème que j'ai si fortement souligné, parce que je crois que c'est le message que tout spécialement Genèse 3 veut nous apporter. Et finalement, la question de la réalisation du bien, ce qui est très proche de la notion de salut. Trace de la chute d'abord. Si on situe Adam à l'origine, ou assez près de l'origine de l'humanité sapiens moderne, sapiens sapiens, comme on disait, je crois un peu autrefois, je crois qu'on on est en train d'abandonner ce langage, sapiens sapiens, trouve-t-on dans tous les vestiges qu'on a pu recueillir quelques confirmations de cette chute originelle dont nous avons parlé? Voilà la première question qui se pose. Bien sûr, elle est très étroitement liée à celle de la situation d'Adam. À la question qui a été évoquée du premier homme ou hominien qui a pu porté ce nom pour la Bible, qui mérite d'être appelé homme. Moi, j'ai préféré, je l'ai utilisé déjà dans mon livre, je crois, mais j'ai préféré dire homme théologique, ou peut-être théologien, homo theologus, que homo divinus. Parce que je pense qu'en français en particulier, si on dit homme divin, on suggère cette émanation panthéiste que M. Buchholz a si fortement exclue. Peut-être qu'en anglais, on n'a pas la même résonance, parce qu'en anglais, un théologien, ça se disait autrefois, est divine. On employait le mot divine pour le théologien, mais on a, je crois, jamais dit le divin pour le théologien en français. Donc moi je suis un peu gêné par l'expression homo divinus pour cette raison, et je préfère dire homo theologicus ou homo theologus. Où le situer? J'ai pour Derek Kidner, qui a été cité, beaucoup de vénération. Je l'ai rencontré, c'était un homme de Dieu remarquable, et donc je ne veux pas exclure la solution qu'il a proposée, comme si elle impliquait un écart dramatique par rapport au respect de l'enseignement biblique. Mais j'ai quand même beaucoup de mal à le suivre. C'était un exégète très compétent et un évangélique solide, sans nul doute, mais je trouve quand même très difficile d'accepter cette idée d'un Adam néolithique qui aurait été l'un, on nous a dit, de 10 millions, en tout cas d'un grand nombre, et qui aurait reçu l'image de Dieu avec ensuite alors extension collatérale à d'autres, pour que d'autres deviennent aussi des hommes théologiques. J'ai beaucoup de mal, et entre autres à cause de la formule sur Ève, mère de tout vivant. Alors Kidner dit que c'est un peu comme la Vierge Marie dans le catholicisme, la maternité de la Vierge Marie. Pour moi, protestant, en tout cas, ce n'est pas très convaincant comme exemple d'analogie qui autoriserait de parler d'une maternité d'Ève qui ne serait plus du tout littérale. Qu'Adam ait été chef d'alliance, fédéral veut dire d'alliance, hein, ça vient de Foidus, l'alliance. Qu'il ait été chef d'alliance et qu'il ait agi à ce titre, je l'affirme aussi fort que je peux, mais est-ce que cela suffit par rapport à ce que la Bible suggère, me semble-t-il, tout au long d'une réelle paternité d'Adam à l'égard des humains qui, d'une part, sont affectés par sa faute, c'est Bnei Adam, et d'autre part, sont tels qu'ils meurent tous en Adam. Il me semble que l'Écriture suggère bien davantage que ce que cette hypothèse peut fournir. Et l'image de Dieu, comme elle vient de nous être exposée, c'est un fait de création, pas simplement d'addition d'une propriété. C'est toute la domination de l'être humain sur le monde visible qui est en cause, et qui exprime le bénéfice de cette création en image de Dieu. Il me semblerait très bizarre que quelqu'un qui n'aurait rien entendu du discours courant sur les origines humaines parmi les savants tire de la Bible toute seule, de sa lecture de l'Ancien et du Nouveau Testament, cette idée. Adam paraît le père. Et l'accent porte très fort sur ce rôle unique par un homme. La multitude, dit Romains 5, la multitude a été affectée. Donc, j'ai beaucoup de mal. Alors, ça ne veut pas dire que je résolve facilement le problème. il me semble que c'est un problème que nous avons devant nous et que la maturité chrétienne et la fermeté dans la foi consiste à dire « je n'ai pas la solution, mais j'envisage ceci, j'envisage cela, il y a sans doute des données qui me manquent pour résoudre la difficulté. Faut-il remonter jusqu'à 150 000, c'est 150 000 ans avant nous, pour cette origine de toute l'humanité sapiens moderne? Après tout, c'est peut-être pas impossible. Peut-être pas impossible. Il est assez clair que les généalogies bibliques n'ont pas la fonction de nous donner une chronologie précise, ni même de nous donner une continuité de génération à génération. Il est très difficile de savoir ce qu'elles veulent dire, celles des premiers chapitres de Genèse 5 en particulier. Je signale, j'aimerais bien que M. Richel se penche sur ce sujet, moi je n'en suis pas capable, mais je me rappelle un article que j'avais trouvé très intéressant dans une petite revue, mais consacrée principalement à l'archéologie palestinienne. Quelqu'un prétendait que les chiffres correspondent à un système astronomique retrouvé sur des tablettes babyloniennes, que ces chiffres, qui nous apparaissent comme les âges de ces patriarches, en fait, représenteraient des rapports que les astronomes de l'époque avaient réussi à déterminer entre les étoiles qu'ils connaissaient. Si cet article avait raison, je ne suis pas capable de l'évaluer. Cela voudrait dire donc que nous ne savons pas lire, en tout cas, les chiffres d'un tel chapitre. Donc, 200 000, ce n'est peut-être pas tellement plus difficile que 20 000. Donc nous n'avons peut-être pas à dire c'est impossible. Alors il me semble que nous avons une double difficulté. Il y a une difficulté exégétique qui se concentre sur Genèse 4, l'histoire de Caïn et Abel. Genèse 4 ne porte pas tous les signes d'un genre littéraire semi-parabolique, usant un langage figuré, qui sont, me semble-t-il, là, très amplement suffisants pour Genèse 2 et 3. Genèse 4, non. Non. Et du coup, peut-on lire ce chapitre si peu littéralement? Alors, il y a quand même quelques signes. J'ai été convaincu qu'on pouvait quand même le faire, même si c'est moins facile que pour Genèse 2 et 3, par un article de John Jefferson Davis, qui enseigne dans la faculté où j'ai d'ailleurs moi-même étudié aux États-Unis, à Gordon Conwell. Il y a quand même des éléments, et c'est l'inclusion qu'a montré M. Richel ce matin dans le grand ensemble des chapitres 1 à 11, irait dans ce sens. Nous n'avons pas à les lire comme nous lirions des généalogies ensuite, des livres historiques. Deuxième difficulté, nous sommes gênés face à nos amis athées, agnostiques, qui ricanent. Bien vu, vous parlez d'une chute, mais c'est absolument impossible pour vous d'en donner la moindre trace. Vous dites, c'était il y a moins 100 000 ans, nous sommes gênés. Mais quel est notre gêne? Je suggère que c'est une gêne psychologique qui n'a pas de valeur logique. Logiquement, personne n'est capable de rien prouver quant à l'occurrence d'une chute ou non. Il y a 100 000 ans, ça, c'est sûr. Si nous avons une source de connaissance fiable qui nous assure qu'une telle chute a eu lieu, il est parfaitement raisonnable pour nous, il est scientifiquement rigoureux pour nous de l'affirmer. Si nous avons, par la révélation du reste de l'Écriture, qui nous est garantie par notre Seigneur, de quoi affirmer qu'une telle chute a eu lieu, nous ne devrions pas être réellement gênés de ne pas pouvoir en montrer de traces dans les restes que l'on a pu rassembler, les vestiges qu'on a pu recueillir. Il me semble utile pour nous de faire la différence entre ce que j'appelle une gêne psychologique, qui est là, et une véritable objection au plan logique et méthodologique. Voilà ce que j'ai à vous suggérer sur ce premier problème. Deuxième problème, celui de la mort. La mort est-elle naturelle ou ne l'est-elle pas? Pour le biologiste ou le zoologiste d'aujourd'hui, la mort est une part essentielle de la vie, en tout cas pour tous les animaux supérieurs, parce que je ne sais pas si on peut très bien définir ce qu'est la mort pour une abîme. Mais pour les animaux supérieurs, c'est une condition qui semble inhérente au fonctionnement de la vie. Serait-il concevable, dans ces conditions, que l'homme, sans le péché, ait été promis à une vie sans fin, sans qu'il ait à connaître la mort? C'est en effet quelque chose de difficile. Je plaide que l'inclusion de la mort dans la vie, comme un ingrédient, est bien une perspective biblique pour la vie et la mort animale. Et je ne pense pas qu'il en soit ainsi pour la vie et la mort humaine de l'homo theologus, entendons-nous bien, d'Adam, de l'Adam biblique et de sa descendance. Et je ne suis pas convaincu, j'ai lu bien des choses allant dans ce sens, mais je ne suis pas convaincu par le plaidoyer de ceux qui disent « Ah, mais l'homme, là, était promis à la mort, physique, biologique, mais c'est la mort spirituelle qui a été le résultat de sa faute. Mort spirituelle et non pas physique. » Je ne réussis pas à me persuader que le texte veuille parler de mort spirituelle et non de mort au sens ordinaire, au sens élémentaire, de la mort terrestre. Rien dans le texte ne me semble suggérer cette disjonction entre les notions de mort. La notion de mort spirituelle est quand même une notion dérivée à partir de l'expérience brute et élémentaire de la mort. Et lorsque l'apôtre dit en 1 Corinthiens 15 « Tous meurent en Adam, tous revivront en Christ », il s'agit de la résurrection des corps. C'est là le sujet dont il débat dans 1 Corinthiens 15. Donc il a, me semble-t-il, d'abord en vue la mort physique, la mort au sens ordinaire. Alors, je ne dis pas que le thème soit restreint à la mort biologique. C'est la mort comme phénomène global et je ne nie pas des composantes spirituelles. Et il me semble que le texte suggère que l'homme ne serait pas mort s'il avait persévéré dans l'obéissance, la foi en Dieu, la communion avec lui. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'homme était immortel comme une donnée métaphysique de sa constitution et qu'il y a eu en quelque sorte une mutation à cet égard. Ce que le texte de la Genèse suggère très fortement, c'était que l'homme vivrait à jamais s'il continuait de manger l'arbre de vie. C'est la fonction même de l'arbre de vie, qui, je crois, représente la communion avec Dieu. C'est par la manducation de l'arbre de vie que l'homme devait échapper à la condition de toute la nature qu'il a en commun avec l'animal et qui inclut, elle, la mort. L'homme n'était pas immortel dans le sens d'une impossibilité de sa nature. Il était immortel au sens d'une vocation que sa communion avec Dieu rendait possible. Si l'on lit de cette façon, il me semble qu'on peut lire de cette façon, je ne pense pas qu'il y ait d'impossibilité scientifique à le concevoir. La manière dont Dieu, par l'action de son esprit, aurait pu faire échapper l'organisme physique même de l'homme créé à la nécessité de mourir, je pense que Dieu avait amplement le moyen de le trouver, ce moyen. Donc, je ne pense pas que ce soit une chose trop difficile à concevoir. Alors, je traite un point de marginal, subsidiaire, Certains disent, oui, mais alors ça aurait fait surpopulation de la terre. Si l'homme n'avait pas dû mourir, alors vous voyez l'objection. Alors là, je relève une chose qu'on ne relève pas très très souvent, qui est intéressante. Je ne veux pas être dogmatique sur ce point, mais la parole dite à la femme à propos de la douleur de ses maternités, c'est « Je multiplierai ta douleur et ta grossesse ». Littéralement, dans l'hébreu, ta grossesse est un second complément d'objet du verbe « multiplier », relié par au précédent par la conjonction de coordination. Donc, il est possible de concevoir qu'un des effets de la chute a été un dérèglement, dans le sens d'une multiplication extrême, du taux de reproduction. Et puis, même si on n'acceptait pas cette idée-là, je pense qu'on peut très facilement dire que s'il y a du sens à accumuler les si l'homme n'avait pas péché, et s'il avait rempli la terre, eh bien, il aurait été arrêté de se reproduire, de se multiplier. Pas de problème majeur, me semble-t-il, à cet endroit. Troisième sujet, je le traite assez vite, le mal moral comme intrus. Aujourd'hui, quant à l'origine du mal, la théorie rivale du message biblique n'est plus la théorie qui aboutit à la gnose, qui fait du physique et du monde le mal, le siège du mal et pratiquement le principe du mal. Ce n'est pas non plus, me semble-t-il, comme pendant un temps, une perspective hegélienne du mal comme condition de progrès dans une histoire dialectique. Il me semble que ce qui prédomine aujourd'hui lorsque on essaie de rendre compte du mal de l'expérience, c'est une explication évolutionniste où le mal s'explique par les difficultés d'adaptation, les différences de rythme du changement entre les éléments que l'évolution a produits. Alors, c'est l'hiatus qu'il y a entre le fonctionnement du cerveau reptilien et puis du néocortex qui ne sont pas bien d'accord ensemble. Voilà, si je comprends bien, si je lis bien, l'explication la plus fréquemment rencontrée du mal de l'expérience. Il s'agit de résidus, de stades dépassés de l'évolution et de certaines difficultés d'adaptation qui sont ainsi créées. Et le refus d'attribuer une place à part dans l'humanité quant au mal se justifie souvent par la présence qu'a évoqué M. Buchol chez les animaux supérieurs de conduites assez proches de celles des humains, mais là je parle tout spécialement des conduites qualifiées de mauvaises moralement. Mensonge, tromperie, agression, la guerre des chimpanzés. Voilà ce qui souvent sert à exclure cette pensée du mal comme une intrusion radicalement étrangère à la nature humaine telle que Dieu l'avait créée. Alors, on pourrait, je pense, revenir sur certaines des affirmations un peu trop péremptoires de savants évolutionnistes. On pourrait aussi chercher s'il n'y a pas une répercussion quand même de l'aliénation humaine sur les animaux tels que nous pouvons les connaître, mais je ne m'aventure pas sur ces terrains-là. Je fais trois observations simplement, très, très brèves. D'abord, je suggère que la perversité, la radicalité, la subtilité du péché humain est d'un autre ordre que tout ce qu'on peut trouver dans les comportements animaux. Il y a une minimisation réductrice lorsque l'on assimile les deux types de conduite. Deuxièmement, l'agressivité n'est pas mauvaise en soi. L'agressivité, oui, je pense qu'elle appartient à la nature. Et d'ailleurs, les scolastiques l'avaient très bien vu. Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, prima pars, question 81, a très bien discerné l'irascible comme une des composantes positives de la psychologie humaine. Le livre de Conrad Lorenz, d'ailleurs, m'en a convaincu, malgré son sous-titre, en tout cas dans l'édition française, une histoire naturelle du mal. Mais non, ce n'est pas le mal. Et l'agressivité, selon Lorenz, est la condition même de l'amour. Il l'observe dans sa recherche éthologique. Donc, ce n'est pas l'agressivité qui en soi est mauvaise, c'est son dérèglement. Et troisième observation, en réservant le sujet si délicat qu'a évoqué M. Buchholz et qu'il a beaucoup plus travaillé que moi du rapport de l'homme à l'animal, je suggère que beaucoup peut être interprété à l'aide de la notion de seuil. Tout le vivant est régi par l'importance de cette loi. En dessous d'un certain seuil, la situation est comme si, et on dépasse un certain seuil, et qualitativement, au plan de l'expérience, on a quelque chose de nouveau. Et je pense que tous les traits qu'on retrouve dans le monde animal, qui annoncent ceux qu'on trouvera dans l'humanité, pourraient s'interpréter à l'aide de cette notion de seuil. Enfin, dernier point que j'aborde, oui, c'est vraiment le dernier qu'il le faut, le bien réalisable. Les sciences humaines ont-elles quelque chose à dire qui concerne la vocation au salut? Vous le savez, la foi au progrès social et moral, grâce aux sciences et à l'application des sciences, on a fait vibrer beaucoup, il y a quelques générations. Cette foi au progrès, c'était une foi dans certains saluts. Mais l'expérience du XXe siècle, et depuis le catastrophisme écologique qui nous environne, on n'ose plus guère exprimer cette foi au progrès. Et dans ce sens, l'opinion qui prédomine aujourd'hui tente à ratifier le verdict de perdition que la Bible pose sur l'homme laissé à ses propres ressources. Cependant, prenons garde de ne pas nous laisser contaminer par le cynisme ou le nihilisme qui ne sont pas plus bibliques que l'optimisme superficiel. Il y a une facilité qui excuse dans le nihilisme. Il y a aussi une certaine réalisation du bien, et en partie liée à l'avancement des sciences, qui dément le nihilisme et qui du coup peut servir de signe au dessein de salut qui est celui de Dieu. L'Écriture suggère, me semble-t-il, le progrès simultané du bien et du mal, avec trois facteurs qui s'enchevêtrent: la mise en valeur des biens créationnels que la grâce commune de Dieu préserve dans l'humanité, et le travail scientifique en est un témoignage, leur usage pervers, aliéné et aliénant, mais aussi les semences de rédemption qui renforcent ce qui a été préservé par la grâce commune, qui peuvent aussi servir à une reprise perverse. C'est l'Antichrist qui singe le Christ, mais qui sont cependant à l'œuvre pour aboutir à la grande moisson où le Seigneur séparera l'ivraie du bon grain. C'est là notre espérance. Merci.